Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Eau de Radio, de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et on est bien sûr ravis de vous retrouver avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle. Ravi de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé à 15h à 18h. Juste avant d'annoncer le sommaire, bien sûr, on va rappeler comment nous suivre. Ça, ce sont des prérogatives à respecter, importantes, voilà, de sigler la radio. Donc, Eau de Radio, bien sûr, ça vous avez bien noté. On peut nous suivre par la bande FM, le 91.3. Voilà, depuis le 10 juillet 1997, je fais un petit clin d'œil à nos invités. C'était l'époque où on était rue Louis Bates, à Lormont. Voilà, et on peut nous suivre aussi par notre site eau-de-radio.fr, voilà, avec la possibilité de, notamment de venir réentendre, voire télécharger toutes nos émissions, service gratuit, j'insiste là-dessus, c'est très intuitif, vous laissez guider en deux clics, vous pouvez retrouver les émissions, voilà, avec la date, bien sûr, que vous voulez retrouver, hein. Donc c'est voilà pour le journal, vous avez les journaux sur une période d'au moins un ou deux mois, voilà, donc c'est très intuitif, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et troisième moyen de nous suivre, c'est le fameux DAB ou DAB+, c'est l'acronyme anglais, la radio numérique terrestre. Voilà, si vous êtes équipé du poste récepteur adapté, adéquat, et que vous êtes en métropole bordelaise, c'est le troisième vecteur de communication. Voilà, ce rappel réalisé, tout de suite les sommaires de ce journal et du magazine à suivre. Voilà, pour ouvrir le journal d'ici quelques instants, Eliott va nous décliner quelques brèves d'infos. Il y a une restitution de reportage, et oui, janvier c'est la période des vœux, donc là on trouvera une restitution réalisée lors de la conférence de presse de début d'année, hein, qui sont les vœux à la presse, hein. Également voilà, du département de la Gironde. Nos invités, Johan et Raven, on va parler, eh bien, de CAFEIA, intelligence artificielle, bien sûr l'acronyme est bien rentré dans les mœurs. Il y a un rendez-vous ce mercredi 21 janvier, temps d'échange, voilà, c'est plus joli, et là comme ça je respecte l'affiche, et Johan et Raven nous expliqueront bien sûr qu'est-ce qu'on va retrouver ce mercredi à Carrier, à Lormont. Pour la partie musicale, eh bien Astels sera en concert vendredi prochain, 23 janvier, au Rocher de Palmer. C'est la troisième soirée New French Touch, j'essaye pour l'accent, avec un partage d'affiches avec Émile Londonien. On ne va pas manquer au plaisir donc, d'écouter un des groupes et artistes présents sur ce plateau. Et comme tous les vendredis, on va retrouver Maître Paul Cessot. Voilà pour le magazine juridique et social Défendez-vous. Voilà donc nouveau numéro en cette rentrée 2026. Voilà pour le sommaire du journal et du magazine à suivre. Et tout de suite donc pour ouvrir ce journal, c'est Eliott qui va nous décliner. Tout d'abord quelques brèves d'infos. Bonjour Eliott.
Bonjour Joël et bonjour à toutes et à tous. À ce nom, l'association Espace Textile Rive Droite transforme la couture en véritable outil de lien social et d'insertion. Dans ce local installé au pied d'un immeuble HLM, des cours de couture gratuits sont proposés chaque semaine aux femmes du quartier, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Le succès est au rendez-vous. 17 ateliers hebdomadaires sont aujourd'hui organisés sur la rive droite, notamment à Lormont, Florac et Bassins, réunissant plus de 270 adhérentes. Au-delà de l'apprentissage, le projet permet de rompre l'isolement, de reprendre confiance, et pour certaines, de retrouver un chemin de l'emploi grâce à des dispositifs d'accompagnement soutenus par les collectivités. Un exemple concret d'innovation sociale où le faire ensemble devient un levier contre la précarité. Les préparatifs du carnaval des deux rives s'intensifient à l'approche de l'édition 2026. Prévu le dimanche 1er mars, cet événement populaire, devenu incontournable dans la métropole, mobilise dès maintenant de nombreuses associations culturelles et habitants, notamment sur la rive droite à Senon, Florac et Lormont. Depuis plusieurs semaines, des ateliers de fabrication de masques, de costumes et de chars sont organisés dans les quartiers ouverts à tous. L'objectif, favoriser la participation citoyenne, la créativité et le lien social autour d'un projet festif et commun. Le carnaval traversera, comme chaque année, les deux rives de la Garonne, mêlant art de rue, musique, danse et performance collective. Dans un tout autre registre, le Salon du Livre Ancien ouvre ses portes aux amoureux de la littérature. Ce week-end 17 et 18 janvier, la Cour Mably accueille le Salon du Livre Ancien à Bordeaux, un rendez-vous littéraire qui attire libraires et amateurs de livres rares venus de toute la France. L'événement propose des ouvrages anciens, illustrations, gravures et pièces d'exception à découvrir ou à acquérir jusqu'à dimanche, dans une ambiance qui célèbre l'histoire du livre sous toutes ses formes. À l'approche des élections des 15 et 22 mars prochains, pensez à vérifier vos inscriptions sur les listes électorales. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 février en mairie ou jusqu'au 4 février en ligne. Pour vous inscrire ou connaître vos bureaux de vote, rendez-vous sur le site officiel élections.intérieur.gouv.fr. On referme ce chapitre de l'actualité et on le réouvre maintenant sur notre reportage. Mercredi 14 janvier, nous nous sommes rendus au centre départemental de l'enfance et de la famille, à Aizine, pour assister au vœu de la presse de Jean-Luc Glaize, président du département de la Gironde. À cette occasion, la protection de l'enfance et la signature du schéma départemental de prévention ont été au cœur des échanges. On écoute le président.
Pourquoi avoir choisi de centrer ce discours de vœux à la presse sur la protection de l'enfance ?
Alors d'abord parce que c'est la grande cause 2026 pour le département, parce que nous avons récemment voté un nouveau schéma départemental qui dessine la feuille de route pour les années qui viennent, et parce que cette protection de l'enfance, c'est la première vice-présidence du département, c'est la politique publique aujourd'hui qui est la plus importante en matière budgétaire, et parce que moi je suis particulièrement sensible au devenir de ces enfants qui sont les enfants les plus fragiles de la République.
La protection de l'enfance est au cœur de vos priorités pour 2026. Qu'est-ce qui, selon vous, doit changer en priorité dans le système actuel pour mieux protéger les enfants en danger ?
En fait, il y a beaucoup de placements qui se font dans ce qu'on appelle les maisons d'enfants à caractère social, plus communément les foyers. Or, pour un certain nombre de ces enfants, être placé en foyer, c'est une rupture de parcours qui entraîne des difficultés dans leur vie. Nous estimons, nous, qu'il doit y avoir beaucoup plus de réponses d'accompagnement qui restent à domicile, soit dans la famille d'origine, soit dans des familles d'accueil, soit chez des tiers dignes de confiance. Et donc, nous essayons de faire évoluer la protection de l'enfance dans ce sens-là. Et ça va tout à fait aussi dans le sens des préconisations qui ont été émises par un rapport national qui a été élaboré par une députée qui s'appelle Isabelle Santiago et qui dit qu'il vaut mieux maintenir les enfants en milieu ouvert, en milieu familial, plutôt que de les placer en institution.
Les travailleurs sociaux alertent régulièrement sur le manque de moyens et l'épuisement des équipes. Quelle réponse concrète le département apporte-t-il à cette crise des vocations ?
Alors, c'est un sujet national qui concerne la protection de l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées. Il y a aujourd'hui une difficulté à garantir des parcours professionnels parce que ce sont des métiers qui peuvent être épuisants et pour lesquels il faut garantir une continuité professionnelle. Il y a aussi des besoins de formation dans ce cadre-là. Ce n'est pas forcément toujours des questions de rémunération, mais parfois améliorer la mobilité des personnes, notamment sur les services d'aide à domicile. Tout cela sont des réponses qui peuvent être apportées. Nous avons élaboré au Haut Conseil du Travail Social un livre blanc qui apporte justement des réponses et des solutions. Et nous attendons que le gouvernement s'en saisisse de manière à changer les lois, les règlements et à permettre aussi d'avoir les moyens pour pouvoir faire évoluer ce travail social.
Faut-il, selon vous, repenser en profondeur le modèle départemental de la protection de l'enfance ou peut-il être encore renforcé à l'échelle locale ?
Alors, je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire que le département peut donner, lui, la vision un peu stratégique de ce qui doit être fait. Et après, on travaille avec les associations qui sont nos premiers partenaires. On peut travailler avec des maisons d'enfants à caractère social. Nous travaillons aussi avec les assistants familiaux qui sont nos personnels. Et c'est de cette manière que nous arrivons, depuis le terrain, à modifier et à améliorer la protection de l'enfance. Donc les deux sont liés. Il faut une commande départementale, mais il faut ensuite une action très locale.
Pour finir, une question un peu plus légère. Que souhaitez-vous aux Girondins et aux Girondines pour cette année 2026, Monsieur le Président ?
Écoutez, j'ai envie de leur souhaiter beaucoup d'apaisement et de sérénité parce qu'on sent bien que le monde, la planète est très chamboulée aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan démocratique. Et je pense que nous avons toutes et tous besoin de sérénité, faire en sorte que le rapport de force et que la violence ne soient pas la réponse aux besoins des personnes, mais bien au contraire de l'apaisement et de la solidarité. C'est avant tout ce que nous portons au département de la Gironde.
Voilà, donc restitution de reportage. Vous avez pu entendre Jean-Luc Glaize, président du département de la Gironde. C'était lors de cette conférence de presse qui faisait également office de vœux à la presse. Voilà, c'était ce mercredi. Allez, on est toujours en direct. C'est notre journal à Eau de Radio en ce vendredi 16 janvier. Johan, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour et bienvenue à tous.
Animateur, donc on expliquera le phare, même si c'est bien ancré, bien sûr, dans les mœurs. Raven, je ne vous oublie pas, animateur à l'association des filles.
Hein. Bonjour, merci Joël.
Allez, c'est ça, exactement. Bonjour et bienvenue aussi. Puis on avait l'occasion de se croiser sur un événement commun. Et on fait un petit coucou à vos équipes respectives hein, que l'on connaît. Pour des filles, on a recroisé voilà, des membres de l'association. Alors là, Caféia, alors c'est vrai qu'il est mis en gros en plus sur l'affiche. Alors l'intelligence artificielle. Bien sûr, on en parle. Là, donc, ce sont les associations des filles, puis le phare, donc. Peut-être expliquer, Johan, même si je pense que tout le monde, leurs montées et leurs montées connaissent bien le phare, à quoi ça correspond. Voilà, c'est le centre socio-culturel de Carrier, hein, ouais. Tout simplement.
Oui, j'explique en quelques lignes.
Oui, si vous voulez dire quelques mots, bien sûr, avec plaisir.
Ben, on est un centre socioculturel, voilà, ouvert à tous, et on accueille les familles et les enfants principalement dans nos missions. Donc voilà, on peut proposer des sorties culturelles, on fait de l'accompagnement à scolarité avec les enfants, et puis on fait aussi des sorties en famille, et voilà.
Voilà, centre social et culturel, comme on connaît, si ce n'est qu'il a changé de statut.
Oui.
Il y a quelques temps, Raven, juste en quelques mots, l'association Défi dans les grandes lignes, ouais, bien sûr. Bah, je sais que vous êtes très actif.
Je peux dire ça.
Mais évidemment, évidemment.
Alors, l'association Défi, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe. Alors, il y a trois pôles d'action, je dirais. On donne des cours de français langue étrangère, un accompagnement social sur les démarches administratives. Et du coup, moi, en tant que conseiller numérique, j'accompagne à tous les besoins numériques, c'est-à-dire à toutes les démarches en ligne qui peuvent exister. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est hyper important. Et donc, moi, j'accompagne toutes les personnes, les bénéficiaires qui viennent me voir.
Voilà, on a eu l'occasion de se croiser. Les membres de l'association sont venus. On a fait une mission à Lormont. On était présents donc sur Bienvenue chez vous. Deuxième édition, je crois. Alors justement, pourquoi organiser un événement comme celui-ci ? Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Beaucoup s'en servent. Et c'est vrai que moi, je ne vais pas raconter mon histoire, mais souvent, quand on me parlait de certains points, on me disait ChatGPT. Voilà, comme si c'était le slogan. Et c'est vrai que quand on va regarder sur n'importe quel sujet, on peut avoir des réponses. Alors après, il faut quand même raison garder. Hein. Mais là, vous, l'idée sur ce rendez-vous qui s'adresse plus particulièrement aux parents, c'était quoi ? C'est de mieux, expliquer déjà peut-être, parce que même si ces termes intelligence artificielle, je pense que c'est dans toutes les bouches, mais c'était quoi ? C'est le but de pouvoir expliquer éventuellement le bon côté. Il peut y avoir le mauvais côté, etc. C'était quoi le but initial ? Mais on en est ravis. Hein, au contraire, c'est bienveillant ce que je pose comme question. Mais l'idée, c'était quoi ? D'accompagner, de faire découvrir, comprendre, échanger. Là, je reprends pour moi les mots. Mais c'était quoi la genèse de ce rendez-vous du projet hein ?
Non, le but, c'était vraiment de pouvoir discuter, échanger tous ensemble autour de ce sujet qui touche tout le monde. Et principalement aussi la jeunesse, parce que avec les réseaux sociaux, je pense à Snapchat où il y a MyIA, où les jeunes vont beaucoup. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les parents autour de l'intelligence artificielle, voir aussi comment ils peuvent accompagner leurs enfants sur les devoirs avec l'intelligence artificielle, parce que on sait qu'aujourd'hui, quand on a besoin de corriger un texte ou qu'on a besoin de rédiger et gagner du temps, on utilise beaucoup ces outils-là.
C'est l'exemple que j'essaie de citer. Vous avez des retours, d'ailleurs, par exemple, vous, Johan, au phare de parents, ou même vous dans l'équipe. Est-ce que c'est un outil pour vous, déjà, l'intelligence artificielle ?
On a énormément de retours là-dessus par rapport à l'accompagnement à la scolarité, déjà, où certains enfants, en fait, connaissent ChatGPT que nous et s'en servent dans tous les aspects de leur vie et surtout comme je disais sur les réseaux sociaux où en fait ils vont énormément et maintenant avec ces outils là on peut en quelques clics trouver des informations et échanger avec l'intelligence artificielle. Donc oui, on est confronté à ça et même nous en équipe, c'est vrai que quand on prend notre métier, c'est beaucoup d'écrits et de choses comme ça et des fois pour gagner du temps, on peut s'en servir pour
ce qui se comprend d'ailleurs. Alors après, je sais dans un autre sujet, il y a plein d'artistes qui composent avec. Donc ça peut être l'idée, mais chacun pense à ce qu'il veut. Donc vous, Raven, on en a déjà expliqué en tant que conseiller numérique parce que l'intelligence artificielle, tout le monde en parle là, je ne sais pas depuis quand on en parle, je n'ai pas fait un historique, donc vous, de par votre mission, c'est un point que vous abordez régulièrement avec les personnes que vous accompagnez, avec l'association Défi.
C'est ça, exactement. Alors, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur la genèse du coup de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ça existe depuis bien longtemps, ça ne date pas juste d'hier ou d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'auprès du grand public, on va dire que ça a vraiment fait du bruit avec ChatGPT. Je veux dire, si je donne une année, je dirais à partir de 2023, où vraiment le grand public a commencé à s'intéresser à ça. En parallèle, moi, comme j'aime beaucoup le numérique, j'ai beaucoup travaillé dessus.
Puis c'est votre cœur de métier.
C'est mon cœur de métier, du coup, que je connaissais un petit peu. le fait que maintenant ça touche vraiment tout le monde et que ça arrive maintenant jusqu'aux écoles, etc. Donc c'est un vrai sujet auprès des parents sur lequel on va parler mercredi. Et donc ouais, ça a un impact, comme il a dit Johan, des jeunes, mais ça touche pas que les jeunes, ça touche tout le monde et tous les secteurs. Faut souligner que ça touche pas forcément des secteurs qui sont liés qu'au numérique. C'est vraiment même dans la médecine, il y a de l'intelligence artificielle, donc il y en a partout. Donc les gens commencent à se poser des questions, qu'est-ce que c'est. Et du coup, moi, je suis là en tant que conseiller numérique pour accompagner ça et accompagner aussi les parents dans la parentalité numérique, de comment gérer les écrans aussi avec du coup l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur. Donc c'est vraiment devenu du quotidien.
Voilà, puis il y a plusieurs points à aborder, parce que l'intelligence artificielle, bon, on n'est pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, bien utilisé. Moi, je pense, ça, c'est un avis, c'est subjectif, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai que sur un sujet donné, voilà, en 2 secondes, on peut avoir des réponses sur tout sujet. Bon, après, il faut qu'il y ait notre libre arbitre, notre regard critique. Après, je veux dire, dans certains secteurs, bon, il y a quand même de la déontologie respectée ou pas, hein, parce qu'on arrive à présenter des infos en disant « c'est moi qui l'ai fait ». Voilà, donc là, c'est un temps d'échange que ça va ce mercredi, donc chez vous, au phare de Carrier, 16 rue Loubeil. Nous, on était 15 rue Loubeil, ça dépend.
Juste à côté.
Un petit clin d'œil. Donc là, ça va se dérouler comment ? C'est-à-dire, comme c'est un moment... là, je reprends, parce que là, les mots, ils sont bien choisis. Comprendre, accompagner, échanger. Il y aura quoi ? Il y aura une présentation quelques minutes d'autre part. Après, c'est quoi ? C'est des retours d'expérience, par exemple, de parents ou d'enfants dans les grandes lignes, hein, je vous demande pas bien sûr de... Mais c'est être un petit peu ça, c'est d'abord animer, modérer la rencontre.
Oui, c'est vraiment accueillir les gens et introduire le sujet avec une vidéo qui parle du sujet, et puis après vraiment commencer ce temps d'échange. Donc ça sera vraiment des questions pour au début pour lancer un peu le sujet, puis après en fonction des paroles et des témoignages qui aura lieu, on pourra échanger tous ensemble et se donner des astuces, des choses, voilà. Enfin, le but, c'est que ce soit vraiment ouvert et que ce soit pas vraiment fermé. Et qu'on n'est pas là pour juger, en fait, on est là vraiment pour échanger. C'est le mot. Enfin, le mot, et puis le fait que ça se passe au centre social, comme on dit, le centre social, c'est comme une deuxième maison. Donc, quand on vient, on se sent libre de pouvoir parler. Et donc, le but, c'est que ce soit ça, ouais, vraiment.
Oui, un moment d'échange, ça, vous avez l'habitude dans vos structures respectives, bien sûr, d'organiser. Ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est la première fois que vous l'abordez de cette manière, parce qu'il peut y avoir des échanges. Après, Arvind, vous, c'est dans le cadre de votre profession et de votre mission. Ouais. Mais par exemple, au phare, on en parle entre collègues, oui, mais ça, c'est un petit peu partout aussi. Mais vis-à-vis des usagers, j'allais dire, du public que vous rencontrez, ça, c'est des sujets que vous entendez qui sont abordés, et puis se dire, tiens, mais là, ça peut être bien d'avoir un petit moment d'échange en toute convivialité. Mmh. Il s'agit bien évidemment de ne pas juger quiconque. Si quelqu'un dit, ben moi, je m'en sers à outrance, on ne va jamais en niquer ça. Mais ça, c'est vraiment pas être dans les jugements, échanger, peut-être amener votre éclairage un petit peu plus aguerri, un petit peu plus pointu.
Ben là, on a un projet avec l'accompagnement à scolarité et DEFI, du coup, et le Conseil des sages de Lormont, où justement on va travailler sur l'intelligence artificielle intergénérationnelle. Donc il y aura des groupes de travail avec des seniors et des enfants pour justement aborder la question de la citoyenneté par le biais de l'intelligence artificielle. Donc c'est des sujets sur lesquels on a l'habitude de travailler et qu'on veut aller plus loin, en fait, que ce soit vraiment intergénérationnel, qu'il n'y ait pas cet écart de génération et qu'on s'en serve ensemble, parce que ça concerne, comme disait Raven et comme j'ai pu le dire, tout le monde.
Ça concerne tout le monde, parce que là, c'est vrai, je vous avais posé la question en amont du rendez-vous, on a un petit peu échangé, bien sûr, avant de se retrouver en plateau. Voilà, parce que là, vous adressez aux parents, mais vous adressez à tout le monde, donc tout le monde est le bienvenu pour pousser la porte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce moment d'échange ? Bon, on a précisé le lieu, donc le phare, 18h ce mercredi. Ça échange. Tout le monde est bienvenu, bien sûr, mais est-ce qu'il y aurait des points que l'on n'aurait pas évoqués par rapport à ce rendez-vous de mercredi, ou si vous voulez développer, étayer certains propos, bien sûr.
On a dit, c'est vrai qu'on a ciblé du coup les parents à l'ère de l'intelligence artificielle, mais du coup, c'est les adultes même qui travaillent avec des enfants ou une personne qui a des neveux ou des nièces, enfin voilà, c'est vraiment des adultes qui sont vraiment qui accompagnent ou qui sont au quotidien avec des enfants. Après, qu'est-ce que je peux rajouter de plus par rapport à ce café IA ? C'est vraiment centré, comme l'a dit Johan, c'est vraiment de centrer sur le temps d'échange. C'est qu'en fait, on va pas venir, nous, les animateurs, dire il faut faire ça, il faut faire
bien
ça.
Bien sûr, on n'en fait pas avec la science infuse. Ouais, voilà. Non, c'est un échange,
c'est
on est d'accord. Hein, bien
c'est,
sûr.
Vraiment un échange. Même nous, on sait des choses, mais on ne sait pas tout. Et on va aussi découvrir des choses.
Et on s'enrichit toujours.
Exactement.
Bien sûr. Donc. Il y aura d'autres rendez-vous de ce type-là, parce que de mémoire, c'est une première, je peux me tromper.
Non, c'est la deuxième.
La deuxième.
Autant pour moi.
La première, on l'avait fait, c'était le 8 juillet.
D'accord.
Que ça avait bien
marché.
Ah oui,
marché. Il me semble que j'avais eu dans Parole d'habitant. Je fais un petit coucou à Eric de Carrier, il me reconnaîtra. Donc il y a eu un premier échange. On s'en sert d'un premier échange pour en préparer un autre, parce que ça peut être pas forcément une suite logique, c'est pas une saga, etc. Mais il y avait du monde sur la première. C'est pas le quantitatif qui est important, bien sûr, c'est le qualitatif. Mais il y avait du monde sur ce sujet qui était venu échanger, ce qui vous a certainement donné l'envie, l'idée de remettre ça, façon de parler.
Exactement, c'est qu'en fait, on a vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt, du coup. Qu'il y avait vraiment des gens qui se posaient.
C'est vraiment un sujet qui interpelle. Hein.
C'est un sujet vraiment qui interpelle. Du coup, le premier qu'on avait fait, c'était vraiment la découverte de l'intelligence artificielle. C'était vraiment là, au sens large. Et du coup, là, sur le café IA de mercredi, on va essayer de centrer un peu plus avec les parents, du coup, à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui a beaucoup attiré au mois de juillet. Donc, du coup, qu'on va essayer d'en faire régulièrement.
De pérenniser, voilà, c'est avec ça. Peut-être des angles en fonction.
Oui, il y aura des éditions, enfin, le but, c'est de pouvoir pérenniser ces temps d'échange. En fait, là, c'est sur l'IA, mais après, au fur et à mesure du temps, ça pourrait être sur d'autres sujets. Le but, c'est de pouvoir créer sur Carrier cet espace de temps d'échange. Sur le centre social du Phare, on a eu un projet qui s'appelle Questions de parents, où les parents viennent et peuvent échanger avec une psychologue autour de sujets de la parentalité. Mais enfin voilà, le but de faire tous ces projets-là, en fait, c'est de pouvoir vraiment se sentir libre de passer la porte, que ce soit de l'association des filles ou du Phare, et de se dire j'aurai pas forcément des réponses, mais en tout cas, je pourrai échanger avec des gens et avancer sur ma problématique, parce que le but, c'est de pouvoir avancer justement. Et avancer main dans la main, quoi, sur toutes ces questions-là, quoi.
Puis c'est bien d'avoir des moments, des espaces comme cela où on peut se poser, entre guillemets, et échanger sur des sujets divers et variés. Parce que je présume qu'il peut y avoir des parents qui connaissent que de nom, certains peut-être un peu plus avertis, parce que c'est vrai qu'on peut l'utiliser dans le cadre de son travail, etc. Et exactement. Puis on s'enrichit tous de ces journées. Et puis on comprend bien qu'il y a des enjeux sur d'autres sujets. Là, qu'on va clôturer d'ici quelques instants cet échange. Je ne sais pas si vous voulez revenir à certains points. Dans les grandes lignes, tout a été dit, il me semble, mais je ne sais pas si vous voulez compléter. Là, peut-être on va rappeler, donc tout le monde est le bienvenu. Donc 18h, ça commence comme au théâtre, les trois coups, ça part ou...
Ah, ça part. Non, oui.
Non, parce qu'il peut toujours y avoir un petit temps de latence. Après, bien sûr, le centre socioculturel, le Phare, est un lieu ouvert, bien sûr, vers les Lormontaises et Lormontais. Puis même si on n'est pas de Lormont, je sais qu'il y aura un accueil bienveillant. Donc vous serez déjà ouvert avant 18h.
Oui, nous, on est ouvert de 9h à 17h. 30, donc
si on vient un petit peu avant,
il n'y a pas de problème.
Voilà, là vous êtes mis un temps d'ailleurs, parce que sur un temps d'échange, quand les langues après se délient, après ça c'est votre rôle de mettre à l'aise bien sûr et de modérer, on se met une heure de fin ou on se dit bon voilà.
20h l'heure de fin, oui. Bon. C'est de 18h à 20h.
Des fois, on me dit, on verra, oui, il faut bien qu'il y ait un temps de...
Oui, après, si on déborde un peu, on débordera. Si voilà, à la fin, il y en a qui veulent rester discuter, nous, on a l'habitude de faire ça, quoi.
Oui, mais ça, je m'inquiète pas.
On va pas aller jusqu'à 23h, ça va aller.
Dommage. Bon, mais écoutez, en tout cas, Johan, Raven, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, au travers de vos voix, bien sûr, aux équipes respectives du Phare et de Défi, il y aura certainement... il y aura d'autres temps d'échanges. Voilà, en tout cas, merci. On rappelle donc le Café IA, intelligence artificielle, ce mercredi 21 janvier, 18h. Chez vous, Johan.
Oui, au Phare de Carrier.
au phare de quartier 16 rue Loubaïd. Salut, merci vraiment à tous les deux. On va
merci
repartir.
À Joël. Merci à toi, Joël. Merci bien. À Audé Radio aussi.
Voilà, avec plaisir. Et puis, on va se recroiser sur d'autres événements.
Allez, avec merci. Plaisir.
Merci pour voilà, ce bel engagement. On repartage tout, c'est promis. Allez, je vais faire vite parce qu'on a le magazine juridique et social, mais juste une ou deux infos sur la partie agenda pour rappeler voilà, qu'à la M270, à la Maison des Soirs Partagés, ce soir, c'est un café-concert avec deux artistes, Younes et Rachid, voilà, qui, à partir de 19h, vont fêter le nouvel an à Mazig. Ambiance kabyle, raï, bonne humeur, bien sûr, ça tombe sous le sens. C'est ce vendredi soir, la M270, en accès libre. Et en ce vendredi, voilà, vous aurez du théâtre. Le Théâtre de l'Opprimé Miniature, voilà l'acronyme TOM, avec une belle rencontre entre débats, observations, interactions pour ce spectacle à la Salle du Reflet à 13. Voilà, je n'aurai pas le temps. Hier, j'ai pu développer plein d'infos sur l'agenda. Mais là, il faut absolument qu'on clôture. Donc, merci à Nicolas, la régie technique. Merci à Elliot pour la présentation, réalisation des brèves et cette restitution de reportage réalisée lors de la cérémonie des vœux du département de la Gironde, bien sûr, présenté par son président Jean-Luc Laize. Merci à Johan et Raven d'être venus nous parler de ce Café IA mercredi 21 janvier, donc mercredi prochain. Voilà, Lormont, promis, je repartage toutes les infos. Voilà, d'ici quelques instants, c'est le magazine juridique et social où Maître Paul Cessot, dans le cadre de ce magazine Défendez-vous, va parler d'aide juridictionnelle. Notez que lundi, notre invité sera Jacques Merle. Voilà, on va parler musique, culture. Il va venir nous parler la prochaine soirée de Jazz Forever. Et là, on se quitte avec une pause musicale avec Castells avant le concert de vendredi prochain, 23 janvier. Ce sera au Rocher de Palmer à ce nom.
Come and help me overcome. I went to blues. That's been lazy. And enjoy it. I just. le magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Bonjour à tous, à toutes, vous êtes bien sur Eau de Radio pour votre émission Défendez-vous, première émission de l'année 2026, l'occasion de souhaiter à tout le monde une excellente et heureuse nouvelle année. Et l'occasion aussi de faire l'émission qui intervient en général en début d'année, qui est relative à l'aide juridictionnelle. Une par an, ce n'est pas trop, pas de nouveauté particulière, si ce n'est un petit rappel de ce qu'est l'aide juridictionnelle, comment ça fonctionne en pratique, à la fois quelles sont les conditions pour l'obtenir, quelles sont les formalités à accomplir, et puis comment ça se passe en pratique côté procédure et côté avocat. Petit rappel, l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est destinée permettre l'accès à la justice. Alors, ça va permettre de prendre en charge les honoraires de l'huissier, maintenant appelé commissaire de justice, du notaire si nécessaire, les frais d'expertise dans la mesure où il y a des expertises ordonnées judiciairement et d'une manière générale les mesures d'instruction les frais d'avocat, les honoraires d'avocat principalement, même si là on a une rétribution qui ne correspond pas aux honoraires, au montant des honoraires lorsqu'ils sont librement convenus. L'idée est donc que la justice prenne en charge, que l'aide juridictionnelle prenne en charge ces différents frais pour que chacun puisse avoir accès à la justice. Ça ne se fait pas sans conditions, évidemment. Ça vous concerne si vous êtes demandeur à une procédure, ça vous concerne si vous êtes défendeur à une procédure. Donc dans différentes situations dans lesquelles vous pouvez être convoqué, ça marche au civil, ça marche au pénal, ça marche en droit administratif. Quelles que soient les procédures, et devant un certain nombre de commissions devant lesquelles on peut, le cas échéant, être amené à comparaître. Et l'idée est que cela s'adresse donc aux personnes dont les ressources ne sont pas suffisantes. On va parler des ressources tout à l'heure. Mais bon, quand on dit personne, de qui on parle, c'est là qu'il faut se référer. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est une loi du 10 juillet 1991 qui est relative à l'aide juridique, qui a été modifiée à de nombreuses reprises depuis, pour mettre à jour un certain nombre de dispositions en fonction de l'évolution des textes et des pratiques. Donc cela concerne donc d'abord principalement les personnes physiques. Donc les personnes physiques, on nous dit donc les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leur droit en justice, peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc ça va concerner principalement les personnes physiques, exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif, donc c'est-à-dire en gros les associations qui ont leur siège en France, qui n'ont pas de ressources suffisantes, et également aux syndicats de copropriété terre d'immeubles, donc principalement les personnes physiques. La question est... quelles sont les personnes physiques? Mais en gros, ça va être un peu tout le monde, puisque ça va être les personnes physiques de nationalité française et ressortissantes de l'Union européenne, donc là, pas de difficulté. Les personnes de nationalité étrangère, pour peu qu'ils résident habituellement en France, sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y avait une condition de situation régulière auparavant qui a depuis été levée par le Conseil constitutionnel, puisqu'il a été considéré que l'accès à la justice ne pouvait pas être limité par la situation administrative d'une personne. Et donc l'aide va être accordée sous condition de ressources. Alors l'aide est subsidiaire par rapport à les protections, les assurances protection juridiques. Ou dans les autres systèmes de protection, défense recours ou autre, c'est-à-dire qu'on a souvent dans les contrats, par exemple habitation ou autre, d'assurance habitation, des contrats de protection juridique qu'on paye mensuellement et qui vont prendre en charge des honoraires d'avocat, frais de défense, dans un certain nombre de situations. Alors, en fonction du contrat qu'on a souscrit. Donc la protection va être plus ou moins importante en fonction du contrat qu'on a souscrit. Donc là, on considère que ce n'est pas à la solidarité collective, disons, de régler à partir du moment où il y a un système d'assurance qui a déjà été souscrit par l'intéressé. Donc, dans le dossier qui est rempli, on nous demande d'en justifier. Donc c'est sous condition de sous cette réserve-là, ça va être sous condition de ressources. On regarde, on apprécie ce caractère insuffisant des ressources en prenant en compte, on nous dit, donc le revenu fiscal de référence, la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier, même non productif de revenus, et la composition du foyer fiscal. On nous précise. Alors on aura compris qu'on prend le patrimoine immobilier, mais on nous précise que les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources. Et donc on dit qu'on prend en compte la composition du foyer fiscal, donc les personnes qui habitent habituellement avec vous, mais on a une appréciation de ressources individualisées lorsqu'on a des procédures qui opposent deux personnes du même foyer. Bon, typiquement ça va être par exemple un cas de séparation, un cas de divorce. Donc, dans le cas où la procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou qu'il existe entre eux une divergence d'intérêts. Lorsque la procédure concerne un majeur ou un mineur attaché au foyer fiscal de ses parents qui manifeste un défaut d'intérêt à son égard. Là, on vous donnera une appréciation individualisée des ressources dans ce cas-là. Alors, quel est le montant des ressources ? C'est revalorisé chaque année. On a maintenant, depuis plusieurs années, des prises en charge à la juridictionnelle sont pour 55-25. Autrefois, les barèmes étaient plus. L'échelonnage était plus détaillé. En substance. Alors, bon, je dis, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un simulateur sur Internet et on peut aller simuler, et ça donnera une idée de ce qui sera décidé ensuite. On va avoir une aide totale si on a un revenu fiscal de référence qui est à 12 862 euros maximum, et ensuite on aura une aide partielle, donc il est dégressive, juste entre ce montant-là, 12 000, donc 863 pour le coup, et 19 290 en revenu annuel. Là, c'est pour personne seule. S'il y a un foyer fiscal, il y a des majorations en fonction du nombre de personnes dans le foyer, fiscal. Par exemple, si un foyer fiscal de deux personnes, on passe à 15 177 pour le revenu de référence. On voit qu'on s'adresse quand même à des revenus qui sont relativement modestes. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de cas. Et alors, le fait qu'on soit en surendettement n'a pas d'incidence sur l'aide juridictionnelle. C'est pas parce qu'on est en surendettement qu'on aura l'aide juridictionnelle. On va regarder juste les revenus tels qu'ils sont. Alors, comme les montants ne sont quand même pas particulièrement élevés, on peut quand même, à titre exceptionnel, accorder l'aide juridictionnelle aux personnes qui ne remplissent pas la condition de ressources lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ou après dans des litiges transfrontaliers. Mais donc dans les cas de situation qui apparaît particulièrement d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Donc là, c'est des situations qui peuvent être des situations un peu particulières. Il faut qu'on explique quelles sont ces particularités lorsqu'on dépose la demande d'aide juridictionnelle en disant bon, mais les ressources sont supérieures à l'aide juridictionnelle, mais par exemple c'est un litige qui très clairement va durer, qui est très complexe, va engager de nombreuses expertises et les personnes ne pourront pas faire face à ces expertises qui seront d'un coût particulièrement important. Donc on explique et cela peut permettre d'obtenir donc à titre exceptionnel et juridictionnel si on ne remplit pas les conditions de ressources. Sachant que cette condition de ressources n'est pas exigée pour les victimes de crimes d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, qui sont prévues par un certain nombre de textes, et qu'il y a donc un certain nombre de cas dans lesquels on peut avoir l'aide juridictionnelle de plein droit, sans condition de ressources. On nous demande également, l'aide juridictionnelle est aussi accordée à la condition que l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive, en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. Bon, si vous êtes en défense, la question ne se posera pas tant, puisque vous n'avez pas tellement le choix, vous êtes en justice, il va bien falloir vous défendre. C'est surtout en demande. En première instance, ça ne se pose pas tellement, en appel un peu plus, et surtout lorsqu'on est en pourvoi, c'est-à-dire devant le Conseil d'État ou devant la Cour de cassation, c'est là qu'il y aura une appréciation plus stricte sur cette condition. Évidemment, une demande farfelue, si on dit qu'on veut assigner Dieu, par exemple, on ne vous accordera pas l'aide juridictionnelle pour faire quelque chose qui est manifestement impossible. Là, j'ai pris un exemple un peu simple. Il peut quand même quelquefois y avoir des débats sur ce type de situation. Tout de même. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette condition d'action qui n'est pas manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive, n'est pas applicable donc au défendeur à l'action, puisque par essence, il n'a pas tellement le choix, mais également à la personne qui est civilement responsable, témoin assisté, la personne qui est mise en examen, le prévenu, l'accusé, le condamné, et la personne qui fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Bon, c'est-à-dire, en substance, c'est les procédures dans lesquelles vous n'avez pas tellement le choix. On vous convoque, vous y allez, vous avez bien l'obligation d'y aller, et donc dans ces conditions-là, on ne va pas vous dire que votre action est manifestement irrecevable. Bon, demain, ça serait quelque peu ridicule. Enfin, petite précision, vous avez l'aide juridictionnelle en première instance. Si vous voulez faire appel, il va falloir déposer un nouveau dossier d'aide juridictionnelle. Mais si vous êtes intimé, c'est-à-dire si c'est la partie adverse qui fait appel, que vous avez eu l'aide juridictionnelle en première instance, devant le tribunal, donc devant la cour d'appel, vous aurez l'aide juridictionnelle de plein droit. Et donc l'aide juridictionnelle, ça se fait par procédure. Vous avez une procédure de divorce, vous avez une demande d'aide juridictionnelle, vous avez par exemple on part à une procédure contre votre bailleur, il faut faire un deuxième dossier d'aide juridictionnelle, puis si vous faites appel, à chaque fois il faut faire un nouveau dossier d'aide juridictionnelle, sauf si vous êtes dans le cas, c'est intimé, c'est-à-dire que c'est pas vous qui faites appel, c'est la partie adverse. En pratique, comment ça se passe? Vous avez deux possibilités pour déposer le dossier. La première, c'est de le faire en ligne. La seconde, c'est de le faire en version papier, sachant que la version papier est encore obligatoire pour certaines procédures, par exemple dans le tribunal administratif. Pour les procédures administratives, donc il n'y a pas de dématérialisation possible pour l'instant. Bon, l'avantage de la demande en ligne, c'est que ça se fait. Bon, il faut avoir ces codes France Connect, etc. Ça se fait sur le site juridictionnel. .justice.fr, enfin, bon, il suffit de taper juridictionnel dans un moteur de recherche, on trouvera et on suit ensuite les le cheminement prévu par le site. Il faut indiquer, l'action qui est envisagée et remplir au niveau des législatifs, au niveau des ressources, la situation familiale. L'avantage de faire en ligne, hein, c'est que ça va quand même un petit peu plus vite, pas tellement pour préparer le dossier, mais pour avoir une réponse, et qu'on peut directement en ligne obtenir tous les renseignements utiles, notamment via les sites des impôts. Il faut toutefois bien remplir le dossier. Et ensuite, soit vous avez déjà un avocat, donc mais c'est lui qui s'occupera éventuellement de faire une lettre ou de mettre un tampon sur le dossier. Soit vous n'avez pas d'avocat et vous voulez qu'on vous en désigne un, c'est le bureau des juridictions qui en désignera un. On précise que lorsqu'un délai doit être, lorsqu'un recours, lorsqu'une action doit être indemnée dans un délai qui est prévu par la loi, le délai est suspendu, est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle et recommence à courir à compter de la notification de la décision qui est rendue. C'est-à-dire, vous avez 30 jours pour saisir le tribunal, par exemple. Vous saisissez, déposez un dossier d'aide juridictionnelle dans le délai de 30 jours. À compter du moment où vous recevez la décision d'aide juridictionnelle, bon, en vérité, comme c'est une décision qui est totale, c'est à envoyé en lettres simples. Enfin, pour les aides juridictionnelles partielles, c'est envoyé en lettres commandées. Pour les rejets également, vous avez le nouveau délai qui recommence à courir à compter de la notification de cette décision. Ce qui permet, logiquement, d'attendre que la décision d'aide juridictionnelle soit rendue. Alors, il y a des cas quand même dans lesquels on peut avoir une aide juridictionnelle provisoire qui est accordée par le tribunal, et des cas dans lesquels il peut y avoir une décision qui est rendue en urgence. Alors, même en extrême urgence, dans les cas, par exemple, d'ordonnance de protection, je l'avais évoqué lors de l'émission relative à l'ordonnance de protection, on dépose une demande d'aide juridictionnelle en vue d'une ordonnance de protection, on aura la réponse dans la journée, comme on aura aussi la date dans la journée pour pouvoir avoir, poursuivre cette procédure qui est considérée comme devant être menée en extrême urgence. Avec raison. Donc, et ensuite, vous avez trois possibilités, enfin, même quatre possibilités, on va dire. On vous demande si vous pouvez avoir des caducités parce que vous n'avez pas répondu à des demandes de pièces complémentaires. Voilà. Donc là, on ne peut pas. Donc le délai aura quand même été interrompu. On peut toujours déposer une nouvelle demande, mais la nouvelle demande ne réinterrompra pas de nouveau le délai. Donc il va falloir commencer à s'activer. Autre possibilité, décision de rejet. Si vous avez une décision de rejet, il est possible de contester la décision de rejet. On peut faire un recours dans les 15 jours à compter de la notification de la décision. Là, elle est envoyée en courrier recommandé, accusé, réception. Il y a une nouvelle décision qui est ensuite rendue pour savoir si l'aide juridictionnelle est accordée ou pas. Alors évidemment, il vaut mieux motiver le recours, sinon ça n'aboutira pas à grand chose. Vous expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Si on vous dit par exemple vous gagnez 10 000 euros par mois alors que ses parents, il y a manifestement une erreur et on peut l'expliquer à titre d'exemple. Et ensuite vous avez une aide juridictionnelle qui est accordée, et là donc ça peut être une aide juridictionnelle partielle ou une aide juridictionnelle totale. Si une aide juridictionnelle totale, ben, c'est la totalité des frais qui vont être pris en charge, à l'exception lorsqu'il est dû de ce qu'on appelle le droit de plaidoirie, qui est une taxe dont le montant actuel est de 13 euros, qui n'est pas due devant toutes les juridictions. Elle est due devant le tribunal judiciaire, mais elle n'est pas due devant le conseil de prud'homme, par exemple. Et après, vous pouvez avoir une aide juridictionnelle partielle. Aide juridictionnelle partielle, donc là, ça veut dire que y a une partie des honoraires, vous aurez des honoraires réglés à l'avocat. Quand il y a une aide juridictionnelle partielle, il faut faire une convention d'honoraire. Obligatoirement, enfin même dans les autres cas d'ailleurs, mais là encore plus, puisque celle-ci sera visée par le bâtonnier de l'ordre. Et donc, convention honoraire qui va préciser combien vous réglerez avec le maximum de précision. Voilà. Donc, quand il y a une aide juridictionnelle totale, il n'y a rien à régler. Donc, c'est pas normal si le cas échéant vous demande, même en espèce, de régler quoi que ce soit. Si une aide juridictionnelle partielle, il est normal de régler, mais dans le cadre d'une convention d'honoraires. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? L'aide est accordée, la procédure sera... La procédure sera lancée par l'avocat. On peut éventuellement aussi la lancer avant que l'aide journalière soit accordée, mais de manière générale, on attend que l'aide journalière soit accordée dans la mesure où il convient quand même de savoir dans quelles conditions l'avocat sera rémunéré, et sachant que quelquefois on dépose une demande d'aide juridictionnelle et que si l'aide n'est pas acceptée, la procédure ne sera pas nécessairement lancée non plus. Pour des raisons de coût que les personnes ne peuvent pas toujours supporter. Voilà, et donc la procédure est lancée, donc l'huissier l'huissier va être pris en charge, et puis la procédure va suivre son cours. Alors comment ça se passe ensuite côté avocat, donc alors bon, l'aide juridictionnelle va permettre de régler, donc l'huissier qui va, de manière générale, une procédure commence par un acte d'huissier, c'est-à-dire une assignation. Enfin, je dis huissier, c'est commissaire de justice, mais je crois que tout le monde comprend. Donc, l'huissier sera pris en charge par l'aide juridictionnelle au début de la procédure et à la fin de la procédure, puisque l'huissier est nécessaire également à la fin de la procédure pour faire signifier les décisions. Pour ce qui concerne l'avocat, nous on va travailler en avance de fonds, en gros, c'est-à-dire que l'on sera payé à la fin. En pratique, à la fin de la procédure, on demande au greffier de nous établir une attestation de fin de mission qui va permettre, couplée à la décision d'aide juridictionnelle, de faire une demande de paiement. Donc, c'est-à-dire que vous avez une procédure qui dure 3 mois, vous serez payé, bon, le temps que ça se fasse ensuite, vous comptez encore 2 mois, et vous serez donc payé au bout de 5 mois. Mais si vous avez une procédure de divorce, par exemple, une procédure de construction qui dure 2, 3, 4, voire 5 ans, bon, ça reste des cas exceptionnels, mais plus d'un an, c'est loin d'être exceptionnel, 2 ans, 3 ans, ça arrive, bah, vous serez payé au bout de... au bout de ce délai, donc relativement, qui peut être relativement long, c'est-à-dire que pendant toute cette procédure, l'avocat fait l'avance de tout sans être réglé. Quel est le montant des règlements? Alors ça varie. Alors il faut se référer au décret qui est actuellement le décret du 28 décembre 2020. Qui prévoit un système d'unités de valeur par procédure. Alors, selon les procédures, vous avez des unités de valeur, par exemple, divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée, contresigné par avocat, bon, ben, c'est-à-dire le divorce par acte d'avocat. Là, vous avez 24 unités de valeur. Un divorce judiciaire, ça va dépendre du divorce judiciaire. Vous avez consentement mutuel, ça va être 30 UV. Une procédure post-divorce ou hors divorce, ça va être la séparation des la question de la résidence des enfants, etc., pour des couples non mariés, ça sera par exemple 14 unités de valeur, et ensuite on multiplie par le montant d'unités de valeur. Alors il varie de temps en temps, actuellement je crois que c'est 36 euros, ce qui veut dire quand on a par exemple un dossier JAF, un jeu affaire familiale pour la résidence des enfants, pension alimentaire, etc., des dossiers qui peuvent être quand même assez conflictuels, vous avez 14 x 36, vous êtes à 504 euros, ce qui est sans commune mesure avec le montant qui peut être réclamé. Alors c'est sans considération des difficultés, même s'il peut y avoir un certain nombre de majorations modestes, c'est sans considération des difficultés qu'il peut y avoir dans les dossiers, puisqu'on peut conclure une fois, on peut conclure 10 fois, ça ne changera rien. Et donc ensuite, donc on fait notre demande de paiement et on obtient le paiement, quoi, on va dire en mois. Deux mois après, mais on n'est plus à ça près. Donc voilà en substance pour le système de l'aide juridictionnelle qui permet donc d'accéder à la justice sous condition de ressources pour les personnes dont les ressources ne sont pas suffisantes pour y avoir accès par leurs propres moyens, à condition de ne pas avoir un système de protection juridique, d'assurance protection juridique au préalable. D'où l'intérêt, de ce système qui permet que tout le monde ait accès à la justice. Alors, il faut savoir aussi que on a un système au niveau européen avec un bureau d'entraide qui va permettre que l'on puisse aussi bénéficier d'aide juridictionnelle dans un pays étranger. Dans un pays de l'Union européenne, mais un pays non français. Un Allemand peut pouvoir bénéficier d'une aide juridictionnelle en France pour lancer une procédure en France, etc. Il y a un système qui est mis en place avec le bureau d'entraide pour aider à monter le dossier par rapport à cela. Voilà, je pense avoir à peu près, même succinctement, abordé un petit peu tous les points essentiels sur cette question. Donc, raison de plus pour lorsque l'on reçoit par exemple une assignation, ne pas hésiter à aller voir un avocat pour se défendre. Alors, tous n'acceptent pas nécessairement l'aide juridictionnelle, mais on peut l'interroger pour savoir si le. Prend l'aide juridictionnelle ou pas. Alors, attention, par contre, l'aide juridictionnelle fonctionne pour des procédures devant une juridiction. Après quelques commissions, je l'ai dit, mais pour une procédure devant une juridiction. Ça ne va pas jouer pour un certain nombre de démarches administratives. Ça, c'est totalement différent. Mais bon, l'avocat l'explique normalement au préalable. Voilà. Sur ce, défendez-vous en cette année 2026 bonne année encore et à bientôt, au revoir.